9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Et dans Culture Média, Philippe Bondel, on accueille François Bunel.
Bonjour François Bunel.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Vous présentez la grande librairie sur France 5, c'est le mercredi désormais en prime time, donc ce soir à 20h50. Ce soir à 20h50, vous repartez pour une 11e saison.
12e.
12e, pardon, j'avais écrit 12 et j'ai lu 11.
Ouais, oui,
j'ai un problème aujourd'hui avec les chiffres.
J'ai beaucoup, vous me rajeunissez.
Ouais, avec un hommage à Toni Morrison, prix Nobel de littérature, morte il y a un mois, le 5 août dernier. Plusieurs invités EES, Amélie Nothomb, Monica Sabolo, Cécile Coulon, Julia Deck. Il devait y avoir l'écrivain Yann Moix, il s'est décommandé quand et sous quel motif?
Il ne devait pas y avoir Yann Moix ce soir, Philippe Vandel. Je ne sais pas d'où vous tirez vos informations,
mon petit Philippe. La presse.
Alors la presse devrait faire un peu son travail, c'est un peu ce qu'on peut lui reprocher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, regardez, on est dans la dictature de l'émotion, du commentaire hâtif. Il faut travailler, mes amis. Je devais recevoir Yann Moix la semaine prochaine, le 11 septembre, et certainement pas sur la première émission.
D'accord.
C'est important. Parce que
bien sûr,
ça veut dire quoi? Ça veut dire que, regardez, dans cette affaire où tout le monde s'emballe, les gens veulent parler. Et à force de parler, ils réfléchissent plus. On veut tweeter, on veut tout de suite dire un truc, avoir un commentaire, donner une info. Mais de grâce, est-ce que l'on peut faire, vous savez, comme dans les cours de récré, puisque ça commence aujourd'hui, croix. Allez. On pense, on essaye de calmer le jeu, comme au foot. Hein. À un moment, ça ne sert à rien de se précipiter, vous ne marquerez pas le but. Je voudrais qu'on suspende un tout petit peu le jugement.
Il n'y a pas de jugement, c'est juste des infos.
Oui. Non, c'est important parce que de toute façon, je ne voulais pas l'inviter sur la première émission. En revanche, je voulais l'inviter pour plusieurs raisons. La première, c'est que le livre, dans sa première partie au moins, est formidable. Yann Moix est un personnage difficile, curieux, exagéré. J'aime les gens exagérés. Pas à ce point-là. Et entre-temps, Yann Moix est devenu ce qu'on appelle un invité plus comme les autres. Pour les raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir, les auditeurs les connaissent. Je suis exactement sur la ligne de Jérôme Dupuis. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tout ça existe, il faut le questionner. C'est-à-dire poser toutes les questions. Donc, on aurait commencé ce soir, comme on va le faire d'ailleurs, avec ce plateau qui était prévu. Les écrivains, les romancières, la fiction, la lecture, le plaisir de la lecture. Et puis, la semaine prochaine, oui, sur un thème d'ailleurs, hein, la mère bourreau, la mère sainte, parce qu'il y avait face à Yann Moix quatre autres écrivains. Je pense qu'on aurait sans doute passé un bon moment de télévision à parler non plus de ces sujets littéraires, mais d'un sujet tout de même brûlant qui est celui de cet antisémitisme et ce révisionnisme, ce négationnisme, qui est une ligne rouge. Yann Moix a décidé, et c'est son choix, de ne pas venir. Fin de l'histoire.
Il vous a donné ses motivations?
Non. Mais je n'ai pas à les connaître, d'ailleurs. Je respecte totalement les invités, vous savez.
C'est juste pour savoir.
Qui veut pas venir.
Non, il a dit « je viens pas » ou il a dit « je viens pas parce que... »
Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et encore une fois, ça ne me dérange pas. Je trouve, de vous à moi, d'ailleurs, qu'il a raison. Yann Moix, c'est quelqu'un... Je ne suis pas Philippe, vous le savez. Là-dessus, je suis comme vous. Je suis journaliste. Journaliste, ça ne veut pas dire procureur. Ça ne veut pas dire avocat de la défense. Ça ne veut pas dire non plus juge aux affaires familiales ou juge à la 17e. J'aurais eu des questions à poser. Beaucoup. Qui n'ont pas été posées à mon sens. Mais là, en l'occurrence, elles ne le seront jamais. On ne va pas faire de la science-fiction et parler, vous et moi, d'une émission qui n'aura pas lieu. Parlons de celles qui vont avoir lieu.
Vous définissez justement François Bunel comme journaliste littéraire. Vous posez les questions qu'il faut poser. C'est vous qui l'avez dit, qui n'ont pas toujours toutes été posées. Quelle différence vous faites avec un critique littéraire?
Ah, c'est très simple. Et c'est passionnant. Le critique littéraire, c'est celui qui sait. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous lisez une critique littéraire, c'est bien ou c'est mal. Généralement, quand on veut être un peu brillant, on dit c'est nul ou c'est formidable. C'est-à-dire qu'il sait, il est né en sachant, c'est un sachant. Voilà, je ne sais pas d'où il vient, ce savoir, mais il sait tout. Moi, je ne sais rien. Je ne sais pas ce qu'est la littérature. Mais comme tout le monde, comme vos auditeurs, j'essaye de comprendre, j'essaye de savoir. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ouvre un cabinet de curiosité. Toutes les semaines, à heure fixe, gratuitement et pour tout le monde sur le service public, et je pose la question, sous différentes formes, mais au fait, qu'est-ce que c'est que la littérature? À quoi ça sert? Et vous voyez, la collection de toutes ces réponses depuis 12 ans le mercredi, à raison de 4 ou 5 invités, me permet toujours pas de savoir, mais enfin j'ai une petite idée de ce que ça n'est pas.
Il y aura ce soir un hommage à Toni Morrison, je l'ai dit, prix Nobel de littérature, décédé il y a un mois. Vous étiez amis avec elle, vous la connaissiez, pour qui ne l'aurait jamais lu? Qu'est-ce que vous pouvez en dire, j'arrive à le prononcer, en très court?
En très court, je ne suis pas noir, mais avec Toni Morrison, je le suis devenu. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, je ne suis pas dans la peau d'un noir. En ce moment, on parle beaucoup de l'appropriation culturelle. En parlant des écrivains, on oublie le lecteur. Le lecteur, l'auditeur qui nous écoute là en ce moment et qui veut savoir ce qu'est la condition d'une femme esclave noire et le comprendre autrement. Vous savez qu'avec des discours de spécialistes, le ressentir de l'intérieur, dans ses tripes, dans ses yeux, à la gorge nouée, il lit Beloved de Toni Morrison et sa vie change. En gros et en un mot, elle a changé notre rapport à l'histoire. Ce que l'on savait, de façon intellectuelle, on le touche de façon tripale et sensuelle. Voilà. De même qu'en lisant Elie Wiesel, moi qui ne suis pas juif, j'ai compris ce qu'était être juif à 16 ans dans les camps de la mort.
Toni Morrison, vous l'aviez interrogé.
Et Elie Wiesel est publié chez Grasset.
Toni Morrison, c'est vous qui revenez au sujet. Toni Morrison, vous l'aviez interrogée chez elle à New York, c'était l'an passé, elle était déjà malade, elle était intubée, ça se voit à l'image, je le dis pour nos auditeurs.
Elle avait voulu, pardonnez-moi, c'est incroyable, parce que c'est un acte de courage dingue, elle était, vous avez raison, intubée, et elle avait voulu être filmée comme ça pour montrer ce que c'est que se battre jusqu'au dernier souffle.
Et elle parlait, notamment l'extrait qu'on a choisi, parce qu'il fallait faire court, elle parlait d'écriture.
Les romans, la fiction sont toute ma vie. C'est là que je vis. C'est ce qui fait que je suis moi, à la fois comme les autres et pas comme les autres. Voilà ce que cet art représente pour moi.
Vous avez un grand sourire tendre, François Bunel.
Oui, parce que d'abord, c'est une femme, je vous l'ai dit, qui... pour moi, reste un des très grandes romancières. Je pense que, socialement, on a dit beaucoup de choses sur Toni Morrison. Elle a fait énormément, par exemple, pour faire avancer les droits civiques aux États-Unis. C'est une icône, Philippe. C'est la disparition d'un séquoia, d'un chêne immense dans la forêt américaine, et pas seulement littéraire. C'est la marraine, vraiment, des droits civiques. Mohamed Ali n'aurait jamais écrit ses mémoires sans elle. C'est elle qui lui a fait écrire. Angela Davis, dans les années 60, n'aurait jamais écrit. Et donc, la libération de la femme noire n'aurait pas eu lieu. Vraiment, je le crois. Et puis par ailleurs, oui, elle avait eu la gentillesse de me considérer comme quelqu'un à qui on pouvait parler.
Mais à la différence du séquoia qui est disparu, on peut trouver encore ses livres. La Grande Librairie est l'émission la plus prescriptrice en matière de livres. Devant Télématin, devant On n'est pas couché. Comment vous situez par rapport au talk show? En même temps, je connais déjà votre réponse.
Eh bien,
de ce que vous avez dit de l'émission du samedi soir,
non,
sans la nommer.
Non, pas du tout. Encore une fois, attendez, ce que j'ai dit n'est pas, je voudrais qu'on soit clair, ce que je viens de dire n'est pas une critique.
J'ai compris.
De ce que fait Laurent Ruquier, pour qui j'ai beaucoup d'admiration. J'ai énormément d'admiration aussi pour Adèle Vanrett. Je tiens à le dire. Je dis simplement que j'aurais fait autrement. Mais comme eux ont fait autrement, voilà, il n'y a pas de... Bon, le talk show, d'ailleurs, la Grande Librairie s'en est un. Simplement, l'idée, c'est de laisser la parole aux écrivains parce qu'on ne les entend nulle part.
Magnifique.
Europe 1. Il fait sa 12e rentrée ce soir sur France 5 avec la Grande Librairie. François Bunel est l'invité de Culture Média sur Europe 1.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Ce matin, dans votre radio, on parle littérature à la télé avec Philippe Vandel et son invité François Bunel.
François Bunel qui sera ce soir à 20h50 pour le retour de la Grande Librairie. C'est sa 12e saison et 11e saison, je sais plus.
12e.
12e, parce que sur le dossier de presse, il y a écrit 11, donc je suis perdu. Quand je lis une chose, moi, je reste comme ça. C'est le vôtre, alors faites pas le malin. Plusieurs invités ce soir, évidemment, un hommage à Toni Morrison avec des interviews exclusives qu'elle avait faites spécialement pour vous et que vous allez repasser. Vous rallongez un peu l'émission.
Oui,
pour ça.
France Télévisions nous donne un quart d'heure de plus, donc on en profitera pour montrer le meilleur de ces émissions. En fait, depuis 2008, on l'a interrogée, je crois, 5 fois chez elle à New York.
Plusieurs invités EES, que des filles, Amélie Nothomb pour Soif, Monica Sabolo pour Eden, Cécile Coulon pour Une bête au paradis, Julia Deck, propriété privée, c'est le titre de son roman. Mmh. C'est un choix d'avoir que des filles ce soir ou ça s'est fait comme ça?
Ça a l'air de vous choquer?
Ça me choque pas,
ça
je suis choqué, ça me surprend.
Ah bon?
Ben oui, il n'y a pas la parité. L'objectif, c'est la parité maintenant.
C'est fou ça.
Mais une fois que c'est dans l'autre sens.
Ouais, en tout cas, c'est drôle.
Je veux dire une chose.
Est-ce que vous auriez fait la remarque, mon cher Philippe, s'il y avait eu que des hommes?
Bien sûr. Ah, j'aurais dit alors où sont les femmes?
Donc en fait, s'il y a des hommes, vous dites où sont les femmes. Il y a des femmes, vous dites où sont les hommes.
Bien sûr. La question est où est la parité?
Je peux être. Est-ce que je peux être politiquement incorrect 2 secondes?
Au contraire.
La parité, je m'en fous. On parle de littérature. Est-ce qu'on peut s'arrêter 2 secondes en dehors des sentiers balisés du correct? Je vous parle de livres qui vont vous faire votre semaine et vous emmener mais tellement loin que vous en oublierez ces petits débats très secondaires. La parité, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on met, comment on fait en sorte qu'il y ait une égalité. Et bien l'égalité, c'est l'égalité de talent. Quand elle est là, tant mieux. Quand elle n'est pas là, tant pis. J'allais et ce soir, je trouve qu'il y a quatre romancières formidables. Les quatre. Alors, à des degrés divers. Il y a des livres qui plairont à différentes oreilles.
J'allais vous demander, justement, comment vous les choisissez, vos invités. Vous avez répondu pour partie. Pourquoi Cécile Coulon, par exemple?
Ah, je l'adore, Cécile Coulon. Et je pense d'abord...
Je vais vous dire pourquoi je vous en parle.
Ouais,
alors parce que j'ignorais son nom. Je ne la connaissais pas. Et tout d'un coup, je l'ai vue partout. Elle était sur France Culture une matinée. Elle était passionnante. Il y avait un grand papier
dans
Le Monde.
Vous ne connaissiez pas, mais c'est pas grave. Regardez, justement, la grande librairie me prend par la main.
Mais non, pourquoi une personne arrive tout d'un coup en cette rentrée 2019?
Alors, elle arrive en étant partie de la grande librairie. C'est ça que j'adore en plus. Un, c'est, je pense, dans les trois grands coups de cœur de ma rentrée. Ça fait partie des trois livres que j'ai préférés au cours de l'été sur la rentrée littéraire. J'adore ce livre. C'est un conte cruel, glaçant, extraordinairement tenu. Les amateurs de polar adoreront. Ceux qui n'aiment pas le polar vont se régaler. Ceux qui aiment la littérature, la grande, la belle, vont être scotchés. Et puis, il y a une autre raison, c'est que Cécile Coulon a fait ses débuts, il y a 10 ans, dans une émission sur France 5 qui s'appelait La Grande Librairie.
Combien de livres vous lisez par semaine? Question que tout le monde se pose.
Ça dépend des semaines et ça dépend de la taille des livres. Mais ouais. En fait, je lis toute la journée. D'accord. Je lis tous les matins, voilà, de 8h à 14h, pour tout vous dire. Je ne déjeune pas, y compris avec le petit milieu dont vous parliez tout à l'heure, qui me le reproche beaucoup, mais peu importe. Et puis ensuite, je relis l'après-midi, je vais marcher. Et puis après, j'appelle mes équipes, je passe de temps en temps au bureau, où j'ai une équipe formidable qui prépare les sujets que vous voyez, qui prépare également les surprises. Parce que ce soir, il y aura des surprises. Je peux peut-être vous donner un indice.
Dites.
Elle n'est pas au courant, mais l'une des invitées aura la surprise de voir débarquer quelqu'un que vous, Philippe Vandel, et les auditeurs d'Europe et les anciens auditeurs de Canal+ connaissent bien. Ça, c'est pas du teasing.
Bah, c'est du coup, j'arrive plus à enchaîner parce que je suis en train de chercher dans ma tête.
Autre actualité,
François Bunel, une série documentaire en 10 épisodes sur Arte. Ça sera du 22 septembre au 20 octobre. 2 épisodes le dimanche à 13h. Donc, ça va être 5 fois par dimanche. Mmh. Les grands mythes, c'est quoi l'idée? Qu'est-ce qu'on va voir?
C'est très simple. Les grands mythes, ça consiste à essayer de raconter la mythologie grecque d'où tout est parti, comme un polar. Comme Game of Thrones,
ouais.
Pour faire simple, et le type qui se mouche absolument pas du pied comme du coude.
Non, mais il y aura de la 2D, de la 3D, il y aura plein d'images.
Oui, ce que je trouve formidable dans les séries, depuis qu'elles apparaissent, c'est qu'elles nous permettent de réécrire, alors pas en mieux, mais en différent, vous voyez, avec un sens du rythme, avec une construction qui tient en haleine le téléspectateur, même si au fond, il pense que ça n'est pas pour lui. Et je trouve que c'est ça qu'il faut appliquer à la culture, c'est-à-dire... Souvent, j'entends des gens dire « Mais vous savez, monsieur, la lecture, c'est pas pour moi. » Mais si, c'est pour vous. Simplement, nous ne savons plus, nous avons désappris à vous intéresser. Et moi, j'essaye juste de réapprendre. Vous voyez, je regarde mes deux étoiles polaires. L'étoile du Nord, c'est Bernard Pivot. L'étoile du Sud, c'est Jacques Chancel. Au milieu, il y a Philippe Labro. Je regarde tout ça et je me dis « Mais en fait, si j'aligne tout, j'arrive peut-être à intéresser les gens si j'y injecte aussi le sens du rythme qu'est celui de la série qui nous vient des États-Unis. Et les grands mythes, c'est ça. Je reprends la mythologie, je vous la raconte comme un polar.
Et si je dis pas
un thriller.
Et si je dis pas une bêtise, Game of Thrones, c'est en partie inspiré des Rois Maudits.
Exactement, c'est même très inspiré des Rois Maudits.
En 2003, François Bunel, vous aviez publié Mythologie grecque, c'était au Seuil. Le Figaro vous posait la question, pourquoi écrire aujourd'hui une mythologie grecque? Et c'est votre réponse qui m'a vraiment étonné, parce que j'aime les contre-cultures. En quoi c'est une contre-culture? C'est la culture, la mythologie grecque, non?
Vous rigolez. La mythologie grecque comme culture...
Je savais que ça ferait une bonne question, ça.
Ouais, mais oui, c'est... Non, mais attendez, je peux répondre?
Bien sûr.
Alors attendez, non, mais...
Non, je pose des questions et après vous cassez. Mais bien sûr, répondez, François Bunel.
Mais donnez-moi, allez, une minute.
Ouais.
Alors,
une minute.
Une, pas plus. Un, la mythologie grecque comme culture, c'est du ripolin appliqué sur le plus subversif des romans d'aventure. Deux, à chaque fois... Depuis les Romains, on a tenté de pasteuriser cette mythologie qui raconte quoi en réalité? La sexualité débridée, la prise de pouvoir avec inceste, négationnisme, volonté de massacrer son précédent et notamment son frère et sa sœur. Et tout cela, trois, a été depuis les Romains jusqu'à aujourd'hui, en passant par Louis XIV, en passant par le romantisme, en passant vraiment ripolliné. C'est-à-dire qu'on a atténué, on a dit oui, il y a des yeux qui se métamorphosent. Mais non, pas du tout. Et par ailleurs, il y a les ferments de l'athéisme dans tout cela. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est de raconter en contre-culture avec effectivement le sexe, la drogue et le rock'n'roll, parce que croyez-moi, c'est rock, c'est punk, la mythologie grecque.
Sexe, drogue, rock'n'roll, ce soir, c'est la Grande Librairie à 20h50. Je ne sais pas si ça va défourailler comme vous venez de le faire. Merci beaucoup, François Bunel, d'avoir été avec nous.
Merci, Philippe.
Et Culture Média, ça continue, Philippe.
Et oui, Culture Média continue après le rappel des titres de 10h. On va parler culture, quoi qu'on en parlait déjà. Le cinéma français et cette vieille putain fardée à la peau flétrie. Elle a trop de protecteurs. Ce scud est signé Eric Neuhoff, l'écrivain et critique de cinéma, dans son livre Très cher cinéma français. Il sera notre invité. Et puis, dans les indispensables, Nicolas Carreau s'arrêtera sur la gagnante du prix Roman Fnac 2019. Elle s'appelle Bérangère Cornu. Quant à Louise Bernard, elle nous dira tout des expos à ne pas rater en cette nouvelle rentrée.
La suite de Culture Média, c'est dans un instant sur Europe 1.